et bienvenue à votre émission « Il est l'heure, Monseigneur » sur 101.5 Radio G. Aujourd'hui, je retrouve mon compère Ricardo. Bonjour Ricardo.
Bonjour Raphaël.
Et nous accueillons aujourd'hui Bruno Martin, qui est le président de l'association Les Ateliers du Rempart à Beaufort-en-Anjou, qui va nous raconter un petit peu comment l'association a réussi à prendre le virage numérique, au moins dans certaines disciplines. Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour à vous deux.
Je vous propose tout de suite d'essayer de retrouver l'année mystère avec les différents indices sonores. Alors, une chanson qui n'est pas extraite exceptionnellement de l'année mystère, hein, une fois n'est pas coutume. C'est une chanson d'un artiste décédé dans l'année mystère. Donc, ça vous donnera peut-être des indications. Il s'agit de Fernandel, Félicie aussi.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie aussi. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura « Quand tu voudras ». Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réuni. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie. Je me lavais les mains bien.
Alors, cette chanson de Fernandel, est-ce que vous avez au moins la décennie qui va bien avec, hein?
Je dirais 70-80.
Bruno?
Moi, je dirais les années 40.
Alors, la chanson date de 1939, mais c'est l'année du décès de Fernandel, en fait, notre année mystère.
Le décès de Fernandel, c'est beaucoup plus tard.
Oui.
C'est
ça. Alors, Bruno, on se retrouve pour reparler des Ateliers du Rempart, qui est une association culturelle qui a pris en partie le virage numérique. Alors que c'est dans des disciplines qui sont variées, avec un public varié également. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement des Ateliers du Rempart et de votre activité dans ce temps de crise ?
Eh bien, l'Atelier du Rempart est une association qui s'occupe d'aider ses adhérents à s'initier à différentes techniques artistiques, à les pratiquer, et aussi à l'apprentissage des langues étrangères, en particulier de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. Pour cela, pendant la crise de Covid, nous avons décidé avec les adhérents, de continuer quand même notre activité, de ne pas l'interrompre ou d'essayer de ne pas l'interrompre, en particulier pour l'enseignement des langues. C'est un pari risqué parce que nos adhérents n'étaient pas forcément familiarisés avec l'outil informatique compte tenu de leur âge. Certains nous disaient « je suis trop vieux ». Nos adhérents peuvent avoir 60, 70, 80 ans. Deux matériels qu'il fallait déployer et puis des applications. Mais finalement, les choses se sont vraiment bien déroulées. Les animateurs qui enseignaient ces langues ont complètement transformé leur manière de faire. Les adhérents se sont retrouvés et ont eu du plaisir à se retrouver et du plaisir à continuer à l'apprentissage de cette langue qui leur permettait de retrouver d'autres adhérents, donc des amis. Et le côté convivial l'a largement et très rapidement emporté.
Tu nous dis qu'effectivement, c'est un public qui n'est pas forcément coutumier des outils de communication moderne. Aujourd'hui, vous travaillez avec quelle application ou quel logiciel ?
Alors, Nous travaillons essentiellement avec l'application Zoom, qui est facile à manipuler, qui ne nécessite pas d'apprentissage particulier et qui s'adapte bien à toutes les machines récentes ou anciennes que nos adhérents peuvent posséder, sans avoir besoin d'investir dans un nouveau matériel.
Alors, pour nos auditeurs, c'est vraiment très facile à manipuler puisque c'est le logiciel qu'on utilise pour enregistrer l'émission. Donc, on ne peut pas faire plus simple.
Non, mais, et l'avantage surtout, c'est qu'en cette période, que ce soit Zoom, Zoom Teams, ces genres d'outils, tout le monde s'y est mis, ne serait-ce que pour communiquer avec les proches ou pour d'autres activités. Voilà.
Exactement. Ces personnes qui sont parfois grands-parents se sont mis à l'application et ont été très contentes de l'avoir, de s'y être initiées en même temps qu'ils s'initiaient aux langues étrangères pour pouvoir ensuite communiquer avec leurs petits-enfants ou leurs enfants qui, quelquefois, habitent dans un pays étranger ou sont éloignés ou alors dans l'incapacité de les joindre, finalement, à cause du confinement et à cause des interdictions diverses de se rencontrer.
Et le fait est qu'effectivement, ça ne nécessite pas forcément des équipements très évolués. Aujourd'hui, ce sont des applications qui peuvent même marcher sur un téléphone, un smartphone.
Voilà, et c'est bien la convivialité qui, si j'ose dire, a vaincu la technique ou a vaincu les appréhensions ou les inhibitions que certains pouvaient avoir en se disant que ce n'était pas pour eux, qu'ils ne réussiraient pas à accéder à un plaisir suffisant en utilisant cette technique. Et ça n'a, c'est pas ce qui s'est produit. L'enthousiasme a été là. Et en plus, on a fait en sorte de créer des parrains pour les adhérents qui étaient trop hésitants. On leur a dit, on va vous déléguer un tel qui va vous parrainer, vous expliquer tout ça en détail, vous faire changer votre câble de connexion, vous dire que il faut mettre la caméra comme ci ou comme ça, qu'il faut parler plus fort, qu'il faut mettre un casque si vous entendez pas bien, si vous êtes malentendant, on va vous donner des petits conseils, etc., etc. Et puis qui va les rassurer en leur disant si vous avez un problème, vous appelez votre coach, si j'ose dire.
Il y avait un suivi proposé. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, comment s'organisent en fait ces apprentissages? Si j'avais bien compris, il n'y a pas que les apprentissages en langue que l'association.
Non. Pour les autres apprentissages, ça a été beaucoup plus difficile. Les apprentissages qui sont purement manuels, c'est-à-dire par exemple nous avions des apprentissages un atelier qui était un atelier de tapisserie d'ameublement. Les gens venaient refaire des fauteuils. Là, c'est absolument impossible, évidemment.
C'est plus compliqué à faire par Zoom, en effet.
Voilà. Ou alors du relooking de meubles. C'était un peu compliqué. Mais par contre, des choses comme le dessin géométrique oriental qui était pratiqué avec une de nos animatrices, a pu se réinitier en quelque sorte. Un certain nombre d'animateurs ont pu entrer en contact avec leurs adhérents sans toutefois donner des cours, mais en les guidant un peu. C'est-à-dire que les gens montraient leurs œuvres par Zoom, soit ils envoyaient au minimum des SMS ou des mails avec la photo de leur tableau au cours de sa réalisation, par exemple.
Ok. Oui, j'avais posé deux questions en une tout à l'heure. Je demandais au niveau de l'apprentissage des langues, qui est apparemment l'activité qui marche le mieux.
Pour l'instant, oui. Bah oui.
Avec le confinement. Oui. Comment ça s'organise du coup? Est-ce qu'il faut s'inscrire sur des plages horaires? Est-ce que c'est.
Oui. On a modifié un peu les plages horaires des cours qui étaient donnés auparavant, parce qu'avant, il y avait. Pour les langues, les horaires sont d'une heure et demie, donc des plages d'une heure et demie. Toutes les semaines. Donc, il a fallu modifier un petit peu les horaires pour que ce soit plus compatible avec les nouvelles organisations familiales, par exemple. Mais ça s'est géré animateur par animateur, je dirais démocratiquement, après que chacun ait donné son avis par atelier en disant, moi j'aimerais bien que ce soit à telle heure, et ainsi de suite. Et finalement, c'est trouvé un consensus par atelier qui n'était pas forcément le même que celui d'avant. Puisque nous, avant, on était liés par l'occupation de salles, l'occupation physique de salles qui nous étaient prêtées par les municipalités. Et là, le problème n'était plus un problème physique, il était un problème d'espace numérique, finalement.
Bon, cela dit, ça présente un avantage aussi, c'est que en période de confinement, on est affranchi aussi des contraintes horaires.
Oui, et puis, hein? et puis on ne porte pas de masque. Oui. Parce que pour les langues, c'est extrêmement intéressant.
C'est vrai.
Et les profs de langue nous disaient, bah oui, mais alors nous, avec un masque, ça ne va pas être évident. En initiation, par exemple, il faut voir la bouche un peu hein, de la personne qui parle. Tous nos animateurs de langue sont des natifs de la langue qu'ils enseignent. C'est-à-dire que la personne qui enseigne l'italien est une italienne, la personne qui enseigne l'anglais sont des anglais, etc. Donc, ils aiment bien articuler d'une certaine manière, placer la langue, ils sont un peu dans ce schéma-là, un peu comme on ferait, une maman ferait ou un enseignant ferait dans des classes d'initiation. Voilà, et puis même en anglais, il faut apprendre à articuler pour bouger la bouche, parce que sinon on fait des erreurs et on parle la langue étrangère comme un français, et ça ne plaît pas du tout à nos amis, les natifs. Ouais. Ils n'ont pas envie d'enseigner une langue parlée comme parler à la française. Ils veulent que les gens parlent comme les natifs.
Je vous propose de refaire une petite pause musicale pour découvrir l'année mystère. Et dans la foulée, on aura une petite aussi une nouvelle expérience cinématographique destinée à Ricardo, notre cinéphile. Et puis, on aura aussi une intervention de Josiane. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite les Poppies avec Non, non, rien n'a changé. De quelle année mystère s'agit-il ? Souvenez-vous.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir de Noël. Tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, non, rien n'a changé, tout a continué.
Très, très belle chanson en plus que j'aime bien.
Bon. Donc c'était les Poppies avec Non, non, rien n'a changé. Alors Bruno part avec un avantage, hein, puisqu'à cette époque, bon, Ricardo n'était pas né, si je dis pas de bêtises.
Oui, moi, je sais pas si on peut appeler ça un avantage.
Bon.
Bon, on va le considérer comme ça.
L'avenir nous le dira.
Alors, qu'est-ce qu'il faut que je donne? L'année approximative?
Alors, la connais-tu, Bruno?
L'année?
Oui.
L'année exacte, non, mais je situerai ça en 1964-1965. Mmh. Je ne sais pas si je me trompe, beaucoup.
Alors, tout à l'heure, dans les années 70, on était meilleurs. Ricardo ?
Alors, en fait, moi, je reste sur... J'arrive pas à situer de quelle année c'est, pourtant, j'aime bien cette chanson.
Alors, justement, bah, on va faire une petite pause cinéma en même temps. Et puis, Ricardo, j'espère que tu vas reconnaître le film de l'année mystère. Et puis, bon, après, on ne fera pas tarder le mystère. On dévoilera le poteau rose. Je vous laisse écouter. Alors, Les répliques ne sont pas les répliques originales parce que ça vous aurait trop aidé. Donc j'ai fait enregistrer ces répliques à des enfants et vous allez avoir le plaisir de découvrir ça ensemble.
La sœur, vous avez vu pour un peu une...
Et oui, monseigneur.
C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Il n'y a pas assez de mousse.
Ah, il n'y a pas assez de cheveux non plus. Ne bougez pas.
Et maintenant, Blaze, flattez-moi.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
Pas une flatterie, ça. C'est vrai. Alors,
imbécile.
Qu'est-ce que vous dites ?
Non, imbécile, que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, non, mon maître n'est pas le résultat d'un mariage consanguin. Tu ne l'as pas regardé qu'il me dit « Il ne faut pas se fier aux apparences », que je lui réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père qui...
Êtes-vous bien sûr que c'est une flatterie, ça ?
Bah, j'avais pensé à autre chose, mais j'ose pas.
Osez, si, osez.
C'est... Monseigneur est... beau.
Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ?
Bah, je flatte.
Bon, je suis désolé, c'est mes enfants, moi ça me fait sourire.
C'est très drôle.
Alors, Ricardo et Bruno, est-ce que ça vous donne une idée sur le film ?
Alors,
la Ricardo va être beaucoup plus...
Non, alors moi, on reconnaît une des répliques d'un des Don Camillo. Maintenant, je n'arrive pas à situer si c'est le premier Don Camillo ou le retour de Don Camillo, parce qu'il en a fait trois.
Il en fait trois.
Tu n'y es pas du tout, Ricardo.
Ah non ? Donc, ça veut dire, c'est pas ça, ça veut dire que c'est celui avec qui a un titre au beurre, là. Non, c'est pas celui-là.
J'ai réussi à piéger Ricardo.
C'est pas celui avec du beurre, avec un titre, avec la cuisine au beurre ou un truc comme ça dans le titre ?
Non.
Non. Alors,
t'as le bon acteur.
Oui.
Mais pas le bon film.
Il en reste qu'un, en fait, parce qu'il en a fait cinq ou six dans sa vie, Fernand.
Alors, non, c'est pas un film avec Fernandel. Je croyais que tu parlais de Funès.
Ah, pardon.
Alors,
oui.
Voilà. Je te mets sur la piste avec Fernandel, avec Louis de Funès et Yves Montand.
Tu vois, j'étais resté bloqué sur Fernandel avec le premier indice.
Funès et Yves.
Alors, lequel ?
On y est sensible dans l'émission.
Un autre indice ?
Eh bien, il est l'or, monseigneur.
Ah, oh, ben oui. Le piège était bien trouvé.
Donc voilà, c'était La Folie des Grandeurs.
La Folie des Grandeurs avec...
Donc, alors, je donne la réponse pour l'année. C'est un film de 1971. Voilà.
71.
Donc, le décès de Fernandel, le hit des Poppies, et voilà, la Folie des Grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand. Je vous laisse découvrir également ce que Josiane a pu me confier sur l'année 71 et les souvenirs qu'elle en a, qui laissaient apparaître de nouvelles pratiques en France. Je vous laisse découvrir ça.
Alors, d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde et ravie d'être par là. Alors, je vais commencer par ce que la plupart des Français, à mon avis, ont considéré comme une mauvaise nouvelle. On a instauré pour la première fois, et ça a commencé par Paris, on a inauguré les horodateurs, et pas seulement pour les heures, hein, c'était déjà payant. Et pour éventuellement les resquilleurs, on a recruté les pervenches.
Ça a fait aussi le bonheur de certains malfrats.
Nous étions donc sous la présidence de M. Pompidou. Ma petite fibre féministe avait souligné à l'époque que c'était la première fois pour le 14 juillet qu'il y avait des militaires femmes qui ont participé au défilé. Parallèlement, puisqu'on était dans les femmes, avait commencé aussi beaucoup de bruit, beaucoup de remue-ménage pour abroger les lois contre la contraception et tout ça. C'était déjà des nuits de la bagarre de Simone Veil. Ah ben, puis dans notre région, le fameux passage du Goa, tu sais ce que c'est, bien sûr.
Oui.
Voilà. Donc on était obligé d'attendre la marée basse pour pouvoir rejoindre l'île de Noirmoutier.
Oui.
Or, c'est dans notre fameuse année qu'a été inauguré le pont de Noirmoutier.
D'accord.
À l'inverse de la construction également, c'est cette année-là qu'on a assisté à la destruction des halles de Paris.
Bruno, est-ce que ça t'évoque des souvenirs?
Ah oui, 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 tout à fait. Et puis en plus, c'est l'année de mes 20 ans.
Oh. Donc forcément, oui, il y a plein de choses à se souvenir.
C'était des 20 ans studieux d'ailleurs, mais enfin, j'en ai pas un souvenir forcément que
un âge qui a inspiré tellement de chansons.
Oui, oui, c'est vrai. Bah, oui, c'était romantique, mais le quotidien était peut-être plus prosaïque.
Oui. Bon, c'est vrai que les horodateurs, c'était en phase aussi avec un moyen de transport qui se démocratisait. Bruno, on n'a pas parlé tout à l'heure dans les cours de langue du nombre de personnes en simultané.
Alors, dans le cadre de notre association, les cours de langue se font avec des petits groupes qui ne dépassent jamais 8 personnes. Donc, en fait, notre groupe est toujours compris entre 5 et 8.
C'est ce qui permet aussi d'entretenir, du coup, une bonne convivialité, oui, et de vrais échanges, une place pour tout le monde.
Voilà. Et puis, que chacun puisse s'exprimer, ce qui n'est évidemment pas facile quand je fais partie du groupe, hein, c'est sûr. Mais ma pratique professionnelle m'a quand même habitué à laisser la parole. Et donc, j'essaye de me maîtriser. Je continue quand même à aussi entretenir tout ça. Et j'aime bien, personnellement, j'aime bien les langues, donc je continue ces pratiques-là. Mais c'est vrai que la convivialité est la clé de ces apprentissages, pas seulement numérique, d'une manière générale. Je crois par ailleurs que cette expérience numérique va être très féconde, pour être positif, pour l'organisation des cours futurs. Non pas qu'on va utiliser forcément beaucoup de numérique par la suite, mais on s'est aperçu qu'il y avait moyen de varier un petit peu et d'éviter ce côté trop scolaire.
Moi, je voudrais saluer quand même l'initiative d'associations telles que celle-ci, parce qu'il y a de très diverses activités. Je suis sur le site atelierdurempart.net et on voit qu'il y a des arts graphiques, on voit qu'il y a des ateliers floraux, pardon, de la création de meubles carton, de la mosaïque. Enfin, c'est vraiment très varié et c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines artistiques qui sont représentées. Donc, avec des tarifs que j'ai cru voir très modestes.
On tient beaucoup à ces tarifs très modestes.
Et le fait justement que d'avoir eu accès à tout ce monde numérique pour certaines activités, ça ouvre peut-être la porte pour d'autres villes, par exemple, pour s'inscrire à distance, non?
Oui, justement.
Vous préférez rester sur le local?
Alors, non, nous y pensons. Ça fait l'objet, pour rien vous cacher, ça fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration. Personnellement, je serais assez partisan d'une certaine ouverture dans ce domaine-là, oui. En tout cas pour les langues.
Une réflexion.
On essaie d'aller vers les adhérents, je pense, et je vous rejoins tout à fait, je pense que le numérique peut être aussi une manière d'aller vers. Il faut l'organiser.
Ça m'amène une réflexion sur le numérique, à savoir qu'aujourd'hui, nos étudiants en ont marre du numérique, parce que eux, ils maîtrisent l'outil parfaitement, mais ils ont besoin de relations sociales. Et à l'inverse, effectivement, les seniors pour qui ce n'était pas l'outil du quotidien peut le devenir et rend possible des choses nouvelles. Donc, ouais. C'est vraiment quelque chose qui est...
Oui, c'est un vrai paradoxe.
Oui, c'est très surprenant parce que quand on a goûté à l'outil, finalement, du mal à faire sans, on ne pourrait pas enregistrer l'émission. Mais c'est vrai que ça entretient vraiment les relations de personne à personne aussi et en groupe. C'est ça qui est nouveau puisque...
Mais pour rebondir sur ce que tu disais, sur le paradoxe entre les jeunes et l'ancienne génération, c'est, moi, je trouve que c'est comme toute chose dans la vie, c'est une question de juste milieu, vu que c'est un relationnel que les jeunes perdent parce qu'ils sont trop centrés sur le virtuel jusque là, et de l'autre côté le virtuel qui commence à s'installer, mais l'abus de toute chose, ça finit un petit peu par ou n'avoir que ça comme alternative, ça finit un petit peu par buter, je pense.
Oui, il est absolument pas question de faire du tout numérique dès qu'on pourra. Hein, dès qu'on pourra, je pense que le plaisir de se retrouver ne sera que plus important.
C'est sûr.
C'est comme ça que...
On a tous hâte.
Plus important lorsqu'on pourra le faire, lorsque ce sera une vraie liberté de choisir.
On va faire la dernière pause musicale, si vous voulez bien. Donc, la dernière pause musicale que je vous propose, il s'agit de Claude François avec « C'est la même chanson ». Je vous dis à tout de suite. C'était Claude François avec C'est la même chanson, une reprise d'une chanson d'un standard américain. Voilà, on a pu échanger avec humour sur le sujet. C'était aussi des pratiques de l'époque d'aller chercher dans les charts américaines les bons titres pour les interpréter en français.
Claude François en a beaucoup fait.
Oui. Bon. Ricardo, est-ce que tu avais une question à Bruno en complément et en conclusion ? On arrive au terme de cette émission.
Donc Bruno, tu as réussi à apprendre combien de langues avec l'association ?
Disons deux langues pour bien faire, mais bon, c'est pas complètement deux langues. J'ai complètement appris l'italien. Que je pratique à un bon niveau parce que c'est devenu une langue que j'apprécie particulièrement.
C'est une belle langue.
Voilà, c'est une très belle langue, elle est proche du français, et c'est une très très belle langue. Là, je veux dire, je le parle couramment, mais bon, ça fait 15 ans que j'en fais quand même, hein, donc voilà. Et puis je me suis remis à l'anglais, parce que ça, c'était la langue véhiculaire de mon métier, mais bon, je me suis inscrit dans un cours de perfectionnement, avec des gens... plein de profs, alors donc ça c'était dur.
Bon, on arrive au terme de cette émission. On a pour habitude de faire un agenda en fin d'émission, mais depuis quelques émissions malheureusement on ne peut pas vous annoncer beaucoup d'événements puisque le contexte sanitaire nous contraint beaucoup. Et j'ai appris aujourd'hui même l'annulation du défi du Louette qu'on vous a présenté dans la dernière émission. Oui. Donc je suis désolé pour les sportifs qui pensaient s'y inscrire ou pour les randonneurs, mais voilà, le défi du Louette qui était programmé le 8 mai à Muré-Rigné n'aura pas lieu. Est-ce que malgré tout, Bruno, tu as un événement, une expo virtuelle ou je ne sais quoi à promouvoir actuellement ?
Eh bien, normalement, il est prévu avec la municipalité, mais j'ai bien peur de devoir être
reporter.
Dans la situation d'annuler. Nous avions prévu une fête du printemps les 8 et 9 mai prochains. Avec une exposition sous les halles de Beaufort-en-Vallée, qui est un magnifique bâtiment. Nous avions prévu de faire des expositions sur les thèmes du végétal, et la municipalité avait organisé avec les commerçants et avec un certain nombre de producteurs de végétaux qui sont une fête du printemps. Mais je crains malheureusement que nous soyons obligés d'annuler, parce que je pense que même si nous nous sommes préparés, je crains que nous n'ayons pas l'autorisation de mettre vraiment en œuvre cet événement.
Je vous remercie Ricardo et Bruno pour cette émission.
Merci à toi.
Et on se dit à dans 15 jours.
Bon moment.
On se dit à dans 15 jours pour une nouvelle émission sur Radio G. Il est l'heure, Monseigneur. À bientôt.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.